France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la chute de Harvey Weinstein. En octobre 2017, le New York Times et le New Yorker, deux célèbres journaux américains, publient coup sur coup deux enquêtes sur Weinstein, le célèbre producteur hollywoodien et faiseur de rois du cinéma mondial. Après un travail discret de plusieurs mois, les journalistes révèlent au grand jour des dizaines d'affaires de viol et d'agressions sexuelles commises par le producteur à l'encontre d'anciennes employées de ses sociétés et de plusieurs actrices, dont certaines mondialement connues. Depuis plus de 30 ans, Weinstein s'est construit une carrière hors norme. Artisan de sa petite société new-yorkaise de distribution de films indépendants, il devient mania de Hollywood, producteur favori des plus grands réalisateurs. À son actif, des centaines de nominations aux Oscars et des dizaines de statuettes remportées. Mais derrière le professionnel que beaucoup qualifient de talentueux, se cachait en réalité un prédateur aux centaines de victimes. Et c'est avec son affaire qu'est né MeToo, ce grand mouvement de libération de la parole des femmes, une révolution en marche. Notre invitée aujourd'hui, Marine Turki, journaliste à Mediapart, autrice en 2021 au Seuil du livre intitulé « Faute de preuves, enquête sur la justice face aux révélations de MeToo ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Gaspard Valu, coordination Franck Cognard, chargé de production Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
New York, mars 2015. Ambre Gutierrez, une jeune mannequin italienne de 22 ans, participe à la soirée de lancement d'une comédie musicale au prestigieux Radio City Music Hall, à quelques blocs au sud de Central Park. Pour la jeune femme qui rêve alors d'une carrière dans le cinéma, c'est l'occasion rêvée de rencontrer tout le gratin new-yorkais. On y croise des comédiennes et des comédiens, des directeurs de casting, des agents et des producteurs, bref, toutes celles et tous ceux qui peuvent lui ouvrir les portes du cinéma. Alors qu'elle discute avec plusieurs invités, Ambre Gutierrez est approchée par le diva Weinstein. Il est le plus important et le plus influent des producteurs américains. Travailler avec lui, c'est presque l'assurance de faire carrière à Hollywood.
I would like to thank Harvey Weinstein and everybody at Miramax Films.
I have to thank Harvey Weinstein.
Harvey Weinstein, Miramax people, thank you very much for what you did.
The brothers Weinstein for backing me 100%.
Thank you. I want to thank the Harvey Weinstein Company.
Mr. Harvey Weinstein, that I love, what a man.
I have to thank Harvey Weinstein.
L'échange entre l'actrice aspirante et Weinstein, comme disent les Américains, le producteur donc, se passe à merveille. Il est charmeur, enthousiaste, la complimente sur son talent, sur sa beauté. Elle lui fait part de ses rêves et de ses ambitions. Elle lui parle de son expérience déjà importante en Italie. Et après quelques minutes, Weinstein s'excuse. Il est demandé de toutes parts et doit la quitter. Mais il lui promet de revenir vers elle pour discuter sérieusement de sa carrière. Et le producteur tient sa promesse. Dès le lendemain, Ambre Gutierrez est conviée à un rendez-vous professionnel dans les locaux de la Weinstein Company dans le quartier de Tribeca. Mais quand elle arrive dans le bureau, l'ambiance n'est plus du tout la même. L'imposant producteur a changé de ton. Quelques minutes seulement après le début du rendez-vous, il insiste pour savoir si sa poitrine est naturelle, lui pose des questions intimes. Puis, sans prévenir, se jette sur elle et pose ses mains sur ses seins. Il la saisit ensuite par la taille et tente de l'embrasser de force. Mais Ambre Gutierrez résiste et parvient à se défaire de son emprise. Elle quitte précipitamment le bureau, prétextant une obligation. En réalité, la jeune femme court jusqu'au commissariat le plus proche pour porter plainte. Alors qu'elle fait face aux enquêteurs qui prennent sa déposition, Harvey Weinstein l'appelle sur son portable. Les policiers l'invitent à décrocher pour écouter la teneur de la conversation. Le producteur se confond en excuses et lui propose un autre rendez-vous, le lendemain, au bar d'un hôtel. Les policiers demandent à la jeune femme d'accepter, mais cette fois, elle s'y rend équipée d'un micro.
Je vais prendre une douche, assieds-toi là et prends un verre.
Mais je ne bois pas, je peux te retrouver en bas.
Non, tu viens maintenant. Assieds-toi là et ne me fais pas honte ici.
S'il te plaît, je ne peux pas faire ça.
S'il te plaît, je ne vais rien te faire, je te jure sur la tête de mes enfants.
Pourquoi hier tu m'as touché la poitrine ?
Je suis désolé, j'en ai l'habitude.
Tu en as l'habitude ? Moi, non.
Je ne te ferai plus jamais rien, viens juste 5 minutes. Ne ruine pas notre amitié pour 5 minutes.
C'est trop pour moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas.
Weinstein naît en 1952 dans le Queens, à New York. Après le lycée, il part faire ses études à l'université de Buffalo, la grande ville du nord-ouest de l'État. Son frère cadet, Robert, le rejoint 2 ans plus tard. Là-bas, Harvey et Bob Weinstein deviennent 2 figures de la scène musicale et culturelle. Ils sont d'importants promoteurs de concerts. Mais leur vraie passion n'est pas la musique, non, c'est le cinéma. Et c'est bien là qu'ils comptent faire carrière. Si Bob y voit un business prometteur, Harvey, lui, est un passionné. En 1979, les deux fondent la Miramax Company, contraction des prénoms de leurs parents, Myriam et Max. Ils ne sont pas encore des producteurs et se spécialisent d'abord dans la distribution, apportant un soutien financier à de petits producteurs tout en prenant en charge le travail de promotion auprès des salles de cinéma. En 80, Harvey et Bob Weinstein quittent Buffalo pour s'installer à New York. Ils y développent leur image et affinent leur stratégie. Le credo du Miramax et le pari de Harvey Weinstein, c'est le cinéma indépendant, celui qui est boudé par les grands studios hollywoodiens. Alors ils misent sur des jeunes réalisateurs ambitieux et audacieux comme Quentin Tarantino, Steven Soderbergh ou Jim Sheridan. Et peu à peu, la petite société de la côte Est parvient à s'imposer comme une alternative aux grands studios de la côte Ouest. Ils cassent les codes et entendent bien le faire savoir.
Chez Miramax, nous n'avons pas la pression des grandes entreprises qui veulent que nous grandissions chaque année. Nous pouvons faire ce que bon nous semble, et si nos profits sont faibles l'année suivante, on s'en fiche, tant qu'on a fait du bon travail.
Harvey Weinstein est ambitieux, et il sait que pour arriver à peser dans l'industrie du cinéma américain, il faut avant tout que ses films parviennent à décrocher des récompenses. Le premier vrai succès de Miramax et de Harvey Weinstein intervient en 89, quand le film de Steven Soderbergh, Sexe, mensonge et vidéo, est couronné de la Palme d'Or au Festival de Cannes. Grâce à cette récompense, Miramax joue désormais dans la cour des grands. Et un succès en appelant un autre, les années qui suivent sont prolifiques pour la société new-yorkaise. Au début de la décennie 90, elle enchaîne les performances. Mais surtout, les deux frères, originaires de Queens, attirent les regards des grands studios hollywoodiens qui comprennent alors que la vague du cinéma indépendant est en train de leur glisser entre les doigts. En 93, le mythique studio Walt Disney propose aux deux frères Weinstein de leur acheter Miramax. Pour la société new-yorkaise, c'est l'occasion rêvée de s'implanter enfin à Hollywood. Après plusieurs semaines de négociations, les deux parties se mettent d'accord. Prix d'achat, $80 millions, dont 40 pour éponger les dettes engrangées ces dernières années. Mais de surcroît, Harvey et Bob Weinstein obtiennent une totale liberté dans la gestion de leur entreprise. Autrement dit, c'est le jackpot. Désormais, Harvey se focalise sur son principal objectif, les Oscars. C'est la récompense suprême. Et c'est surtout la garantie d'un succès en salle et donc d'immenses profits. Et c'est en 1997, et après plusieurs nominations, que Weinstein parvient à ses fins. Cette année-là, le film Le Patient anglais, que Miramax a très largement financé, remporte non pas une, mais 9 statuettes, dont une pour Juliette Binoche, sacrée cette année-là meilleure actrice dans un second rôle.
Juliette Binoche in The English Patient.
Elle n'y croyait pas. Ce n'était ni coquetterie ni inconscience de sa part. Elle n'avait tout simplement pas pensé à préparer son petit discours, persuadée que Lauren Bacall recevrait l'Oscar.
I'm so amazed. This is a dream. It must be a French dream, I think. Bye.
Chronique d'un succès annoncé, on voit mal comment l'Oscar du meilleur film et celui du meilleur réalisateur auraient pu échapper à ce patient anglais, produit par un indépendant auquel les studios d'Hollywood avaient refusé leur aide parce qu'il n'y avait pas de star. Belle revanche.
Ce succès, l'équipe du film le doit en grande partie à Harvey Weinstein. car le producteur, qui travaille désormais entre Los Angeles, New York et Londres, a fait de la cérémonie des Oscars sa spécialité. Grâce aux moyens limités de Walt Disney, il se livre chaque année à d'intenses campagnes de lobbying. Et il organise des projections privées avec les comédiens, fait envoyer des cadeaux aux quatre coins du pays, offre des dîners dans les plus beaux restaurants, tout est bon pour s'assurer un maximum de nominations et décrocher les précieux Oscars. Résultat, chaque année, Miramax parvient à placer ses films en haut de la liste des favoris. Et presque chaque année, Harvey Weinstein rentre de la cérémonie avec sa statuette. Pourtant, malgré les multiples récompenses décrochées à travers le monde, le producteur devient de plus en plus difficile à suivre pour Walt Disney. Caractériel, il traîne derrière lui la réputation de manager violent et de producteur omnipotent. Ses accès de colère, sa grossièreté et sa propension à n'en faire qu'à sa tête commencent sérieusement à agacer les vrais propriétaires de Miramax. Et la rupture est actée en 2005. Harvey Bob Weinstein quitte Miramax et cède à Disney un catalogue de plus de 800 films, le tout contre un chèque de 100 millions de dollars. Mais les deux frères n'en restent pas là. Quelques jours seulement après leur départ de Miramax, ils annoncent la création de la TWC, The Weinstein Company. Et là encore, les deux frères continuent de faire des miracles. Année après année, leurs films empilent les récompenses. Personnalité reconnue, Harvey Weinstein est puissant au-delà du monde du cinéma et affiche volontiers sa proximité avec le monde politique et le Parti démocrate, dont il est l'un des plus importants donateurs. On le voit régulièrement lors de soirées de charité, donnant de sa personne pour ses propres associations caritatives ou celles d'autres stars du cinéma. Au fil des ans, il s'impose comme le plus important des producteurs américains. Ses films cumulent plus de 340 nominations aux Oscars et remportent 81 statuettes. Sur scène, il est la seconde personne la plus remerciée devant Dieu, mais derrière Steven Spielberg, bref... Il est une star internationale, reçue avec les honneurs sur les chaînes de télé du monde entier. Comme lorsqu'en 2006, il est interviewé par Thierry Ardisson sur le plateau de Tout le monde en parle.
Bonsoir, merci d'être avec nous. On est très flattés, évidemment, de vous recevoir, Harvey. Il faut défendre la diversité culturelle en Europe. C'est rare de la part d'un producteur américain d'entendre ça.
Moi, j'adore le cinéma. Quand j'avais 10 ans, j'entrais dans un cinéma. Je suis allé voir ce film, Les 400 coups de François Truffaut. Je croyais que c'était un film érotique. Parce que le titre Blows, 400 Blows, la traduction de 400 coups, ça faisait penser aux blowjobs, aux pipes. Alors, on a fait des kilomètres sous la neige pour aller voir ce film. Il n'y a que mon frère et moi qui avons vu ce film parce que tout le monde était déçu. C'était un film en noir et blanc avec des sous-titres, pas une seule pipe. Enfin, toujours est-il que 8 de mes copains ont quitté le cinéma en courant, mais Bob et moi, on est restés et on est tombés amoureux du cinéma français ce jour-là, à l'âge de 10 ans, avec le film de Truffaut. Et c'est une histoire d'amour depuis ce jour-là.
Mais en mars 2015, quand Amra Gutiérrez porte plainte contre lui pour l'agression sexuelle que nous vous avons racontée au début de ce récit, la machine s'enraye.
But it's calm, I'm
Aujourd'hui, l'affaire Weinstein.
Affaire sensible sur France Inter.
Je vais prendre une douche, assieds-toi là et prends un verre.
Mais je ne bois pas, je peux te retrouver en bas.
Non, tu viens maintenant. Assieds-toi là et ne me fais pas honte ici.
S'il te plaît, je ne peux pas faire ça.
S'il te plaît, je ne vais rien te faire, je te le jure sur la tête de mes enfants.
Pourquoi hier tu m'as touché la poitrine?
Je suis désolé, j'en ai l'habitude.
Tu en as l'habitude? Moi non.
Je ne te ferai plus jamais rien, viens juste 5 minutes.
C'est trop.
Si elle est à peine relayée dans la presse française, la plainte déposée par Ambra Gutiérrez au mois de mars 2015 fait l'effet d'une bombe aux États-Unis. Les médias s'en emparent et le producteur se retrouve au bord du gouffre. Le témoignage de la jeune femme et les enregistrements rapportés après sa seconde rencontre avec Harvey Weinstein offrent suffisamment d'éléments à la justice américaine pour qu'une procédure pénale soit engagée contre lui. Mais le mania de Hollywood n'a pas dit son dernier mot, évidemment. Dans les heures qui suivent, le déclenchement du scandale, il engage une armée d'avocats ainsi qu'une société de détectives privés chargée de fouiller dans la vie de la mannequin italienne. On lui prête un passé de prostituée, ainsi qu'une proximité douteuse avec les sulfureux amis de l'ancien chef du gouvernement italien, Silvio Berlusconi. Des éléments qui, évidemment, n'ont rien à voir avec l'affaire, mais qui s'avèrent suffisants pour décrédibiliser son témoignage. Durant plus d'une semaine, Weinstein utilise sa proximité avec la presse à scandale new-yorkaise pour faire pleuvoir les unes et les articles discréditant la jeune femme. Tant et si bien, ou si mal, que la justice américaine fait marche arrière. Contrainte de renoncer à une action judiciaire, Ambra Gutiérrez signe finalement un accord de confidentialité avec le producteur en échange d'une compensation financière de 1 million de dollars. Weinstein a réussi son coup, mais le mal est fait. C'est la première fois qu'une accusation concernant son comportement envers les femmes est publiquement révélée. Cela dit, à Hollywood, cette accusation ne surprend pas vraiment. Dans le petit monde du cinéma, les rumeurs concernant le tout-puissant producteur sont nombreuses, persistantes. Même au sein de sa propre entreprise, plusieurs responsables s'interrogent sur ses relations avec de très jeunes et de très nombreuses actrices. Tom Prince, un ancien cadre de la Weinstein Company, raconte...
Sur presque toutes les productions, je recevais un coup de téléphone ou un email disant qu'il fallait faire voyager une actrice vers le plateau. Je répondais à chaque fois en expliquant que c'était un rôle de 1 ou 2 jours et que nous dépensions des sommes folles en faisant voyager quelqu'un de Paris à Philadelphie ou de New York à la Nouvelle-Zélande pour un rôle qui pourrait être pris par une actrice locale. Mais c'était une demande de Harvey. C'était une société qui était entièrement contrôlée et dirigée par Harvey. Et il était un dictateur. Je sentais clairement qu'il y avait quelque chose d'autre que les capacités de jeu des actrices en question pour justifier de dépenser 20 000 dollars pour un rôle qui aurait dû nous coûter 2 000.
L'affaire Gutiérrez éveille également l'intérêt des journalistes. Plusieurs se sont déjà penchés sur les rumeurs concernant Weinstein. En 2002, un reporter du New Yorker avait enquêté durant plusieurs semaines, récoltant des témoignages accablants de plusieurs femmes ayant croisé la route du producteur. Mais aucune d'entre elles n'avait alors accepté de parler à visage découvert, et le journal avait dû renoncer à publier l'enquête. Or, la donne a changé. Depuis 2014, et la chute du comédien Bill Cosby, condamné pour avoir drogué et violé plusieurs femmes, la parole commence à se libérer et les oreilles à se déboucher. Dans le courant de l'année 2016, Bill O'Reilly, présentateur vedette de la chaîne Fox News, son patron Roger Ailes et le candidat républicain Donald Trump sont tour à tour accusés de viol et agression sexuelle. Autrement dit, la pression commence à monter pour Harvey Weinstein. Lorsqu'en fin d'année 2016, la comédienne Rose McGowan publie une série de tweets dans lesquels elle affirme avoir été violée par un important producteur, son nom commence à revenir avec insistance au sein des rédactions de plusieurs grands journaux. Le New York Times charge alors Jodi Kantor et Megan Toohey de travailler sur le sujet. Les deux journalistes commencent leur enquête dans l'entourage professionnel de Harvey Weinstein et contactent plusieurs anciens employés de Miramax et de la TWC. En peu de temps, elles découvrent une série d'affaires troublantes. C'est Zelda Perkins, une ancienne assistante du producteur dans les bureaux londoniens de Miramax, qui parle en premier. Après plusieurs semaines de discussions avec les journalistes du New York Times, elle accepte de raconter son histoire. En 1998, elle se trouve avec les équipes de Miramax à Venise pour assister au festival de la Mostra. Elle est l'assistante de Harvey Weinstein depuis 3 ans. Elle connaît sa personnalité trouble et elle a appris à le gérer dans les situations les plus compliquées. Mais la jeune femme, alors âgée de 23 ans, ne va plus accepter de se taire quand l'une de ses collègues lui rapporte la tentative de viol qu'elle vient de subir de la part du producteur. Si cette nouvelle victime refuse alors de porter plainte, par peur des conséquences sur sa vie et sa carrière, Zelda, elle, décide de s'opposer à son patron. Oui, elle menace de porter l'affaire devant la justice. Mais elle fait face à une réalité cruelle. Sans plainte de sa collègue, elle ne peut rien faire. Même son propre avocat lui conseille de jeter l'éponge. Les deux assistantes négocient alors avec l'armée de juristes de Miramax. Elles tentent d'imposer des mesures au sein de la société pour empêcher Harvey Weinstein de récidiver, mais se heurtent à un mur. Si les deux femmes obtiennent une indemnisation financière d'une 100 000 $ chacune, elles sont forcées de signer un accord de confidentialité, dont les clauses sont extrêmement contraignantes, comme elle le raconte en 2018 dans une interview donnée pour le documentaire intitulé « L'intouchable Harvey Weinstein ».
Ce qu'ils voulaient était assez simple. Ils voulaient que nous ne parlions plus jamais de Miramax, de Harvey ou de Bob. Et nous devions évidemment plus jamais évoquer l'incident. Mais c'est devenu assez sinistre quand il a été précisé que nous ne devions pas évoquer cela avec un psychologue. Si nous parlions à un psychologue, il devait signer un accord de confidentialité. Si jamais le psychologue venait à briser cet accord de confidentialité, nous serions tenus pour responsables. Cela serait considéré comme une rupture de contrat. Il était aussi précisé clairement que s'il y avait un procès civil ou pénal, nous devions apporter une aide raisonnable à Miramax. Nous avions des armes braquées sur nous de toutes parts.
En donnant son accord pour être cité dans l'enquête du New York Times, Zelda Perkins ouvre une porte qui était restée fermée durant plus de 30 ans. Grâce à son témoignage, les deux journalistes parviennent à convaincre d'autres femmes de parler. Plusieurs anciennes employées de Miramax et de la Weinstein Company rapportent ainsi des affaires de viol ou d'agression sexuelle qui se sont parfois soldées par un règlement financier et la signature de ce fameux accord de confidentialité pour les victimes. Les deux journalistes se penchent également sur les accusations portées à demi-mot par certaines actrices. Parmi elles, il y a Ashley Judd. En 97, alors qu'elle est une jeune actrice à qui tout le monde promet une grande carrière, elle est conviée à un rendez-vous par Harvey Weinstein. À son arrivée, elle apprend que l'entrevue, qui devait avoir lieu dans le hall de l'hôtel Peninsula à Los Angeles, est finalement déplacée dans la suite du producteur. Elle découvre rapidement que Weinstein ne compte absolument pas discuter de sa carrière. Non. Il lui demande d'abord si elle accepterait de lui faire un massage. Il lui propose ensuite de lui en faire un, mais la jeune femme refuse fermement. Alors il revient à la charge et lui demande de l'aider à choisir ses vêtements pour la soirée, puis de le regarder prendre sa douche. Ashley Judd finit par quitter précipitamment la chambre d'hôtel. Mais en refusant de plier devant les avances du patron de Miramax, l'actrice se rend très vite compte que sa carrière va en pâtir. Alors qu'elle était pressentie pour incarner un personnage important de la trilogie du Seigneur des Anneaux, elle apprend que Weinstein a convaincu le réalisateur Peter Jackson de ne pas l'engager. Au printemps 2017, l'enquête du New York Times progresse. Mais ce que ne savent pas Jodie Cantor et Megan Toohey, c'est qu'elles ne sont pas les seules journalistes à remonter les pistes qui mènent à Harvey Weinstein. Ronan Farrow, qui travaille alors pour la chaîne de télévision NBC, récolte lui aussi de nombreux témoignages d'actrices accusant le producteur de violences sexuelles. Patiemment, il parvient à convaincre plusieurs victimes de témoigner pour son reportage. D'anciennes collaboratrices de producteurs et plusieurs actrices sont prêtes à parler. Rose McGowan, Rosanna Arquette, Emma DeCaune, Mira Sorvino, toutes racontent inlassablement la même histoire et décrivent le mode opératoire de Weinstein. En 97, Asia Argento, une actrice italienne de 22 ans, est invitée à ce qu'elle pense être une soirée organisée par le producteur dans sa suite de l'hôtel Eden Rock près de Cannes. Dans l'émission envoyée spéciale sur France 2, elle raconte le piège tendu par Harvey Weinstein.
And I'm left alone with Harvey.
Et je me retrouve seule avec Harvey. Il veut tout savoir de moi, de ma carrière, il parle de ses films. Il me parle même de Victor Hugo, bon sang. Mais après une demi-heure, je dirais, il est allé dans la salle de bain. Il en est sorti en peignoir, avec un flacon de crème à la main. Je lui ai dit, tu plaisantes ? Je ne suis pas ce que tu crois. Il m'a fait, je veux juste un massage pour me détendre. Et très vite, il s'est mis à me peloter. Il a remonté ma robe, m'a écarté les jambes et il a plongé sa langue entre mes cuisses. Je lui disais, non, non, je ne veux pas. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je n'ai pas réagi avec violence. Il ne m'a pas attachée. Parce que pour beaucoup, comme je n'étais pas attachée, j'aurais pu m'enfuir. Je ne pouvais pas m'enfuir. Cet homme fait 100 kilos de plus que moi, peut-être plus. Je me suis sentie si vulnérable à cet instant. J'étais coincée. Quand il a terminé, et je lui ai dit, je ne suis pas une pute. Là, il s'est moqué de moi. Et il m'a dit, ah, très drôle. Demain, j'irai te faire un t-shirt avec écrit « Je ne suis pas une pute ».
Les enquêtes progressent et les preuves contre Weinstein sont de plus en plus accablantes. D'ailleurs, le producteur sait très bien que son temps est compté. Depuis plusieurs mois, il s'est lancé dans une course contre la montre pour tenter de museler la parole des femmes qu'il accuse. Il engage la société de renseignement privé Black Cube. Fondée par un ancien agent du Mossad, elle emploie des centaines d'enquêteurs à travers le monde. Ainsi, durant des semaines, les agents employés par Black Cube contactent les différentes femmes engagées par des accords de confidentialité passés avec Weinstein. Sous la pression et l'intimidation, ils tentent d'imposer le silence aux victimes. Et quand le producteur apprend que plusieurs rédactions ont lancé des enquêtes sur lui, ce sont les journalistes qui sont suivis et intimidés. Ronan Farrow fait ainsi l'expérience de l'immense influence de Weinstein auprès des médias américains. La chaîne NBC, pour laquelle le journaliste travaille au moment des faits, décide en effet au dernier moment d'annuler la diffusion de son enquête. Il se tourne alors vers le New Yorker, un hebdomadaire à gros tirage qui a déjà tenté d'enquêter sur Weinstein dans le passé. Son rédacteur en chef n'hésite pas longtemps avant, lui, d'accepter de publier son travail. Le 5 octobre 2017, le New York Times dégaine le premier et publie une vaste enquête sur le tout-puissant producteur hollywoodien. 5 jours plus tard, donc le 10 octobre, c'est le New Yorker qui publie à son tour les 13 témoignages recueillis par Ronan Farrow.
Sur les tapis rouges d'Hollywood, il était le roi, producteur surpuissant, ami des stars. Ici, aux côtés du rappeur Jay-Z ou du réalisateur Quentin Tarantino, dont il produit les films Pulp Fiction ou Kill Bill, Harvey Weinstein est aujourd'hui au centre d'un immense scandale. 13 femmes au moins l'accusent d'agression sexuelle ou de viol. Cette actrice décrit le harcèlement dont elle aurait été victime chez le producteur il y a 24 ans.
Il est sorti de la salle de bain totalement nu. Il bloquait la porte. Il disait « Fais-moi au moins un massage ». Ou est-ce que je peux voir ta poitrine ?
Les révélations des deux journaux américains et les témoignages des victimes de Weinstein provoquent une déflagration, et dans le monde entier. Dans ses réponses aux journalistes, le producteur adopte une ligne de défense claire. S'il admet, à demi-mot, avoir pu causer du tort à certaines femmes, il est formel, toutes ses relations étaient consenties. Il s'entoure d'avocats prestigieux, dont Benjamin Braffman, qui a défendu Dominique Strauss-Kahn quelques années plus tôt. Mais les réactions mondiales face à ce scandale sont trop violentes. Le lendemain de la publication de l'article New York Times, le producteur se met en retrait de sa société pour débuter une cure de désintoxication et soigner son addiction sexuelle. Deux jours plus tard, le conseil d'administration de sa propre compagnie le renvoie définitivement. L'entreprise qu'il a fondée 10 ans plus tôt avec son frère Bob est au bord du gouffre. Dans les articles, ses responsables sont pointés du doigt pour avoir fermé les yeux sur les accusations pesées sur Harvey Weinstein depuis des années et pour avoir participé au règlement des compensations financières accordées à au moins 8 victimes du producteur. Dans les mois qui suivent, plusieurs enquêtes estiment qu'au moins 40 millions de dollars ont été déboursés depuis les années 80 pour faire taire les victimes du producteur déchu. La TWC annonce sa faillite au début de l'année 2018. Dans les jours et les semaines qui suivent la publication des deux enquêtes, des dizaines de femmes, dont de très nombreuses actrices, commencent à briser elles aussi le silence et raconter leur expérience traumatisante avec Weinstein. Angelina Jolie, Salma Hayek, Eva Green, Judith Godrèche, la liste des victimes du mania de Hollywood ne cesse de s'allonger. En tout, ce sont plus de 100 femmes qui prennent la parole pour dénoncer des comportements violents, des agressions sexuelles, des viols et tentatives de viol commis entre le début des années 80 et les années 2010. Face à toutes ces affaires, le producteur qui fuit désormais les projecteurs sait qu'il ne peut plus échapper à la justice. Le 25 mai 2018, il est arrêté à New York pour viol et agression sexuelle commis sur 2 femmes. Son procès s'ouvre en janvier 2020. La justice new-yorkaise rend son verdict le 11 mars.
Harvey Weinstein, Sébastien, risquait 29 ans de prison.
L'ancien producteur roi d'Hollywood est condamné à 23 ans pour viol et agression sexuelle sur 2 femmes. Ses avocats, qui avaient demandé une peine de 5 ans, vont faire appel. Les victimes de celui qui a donné naissance au mouvement MeToo regrettent qu'il n'ait pas pris la mesure de ses actes. Voici Gloria Allred, avocate de l'ancienne assistante du producteur, Mimi Alei.
Ma cliente dit qu'elle n'a jamais eu de désir de vengeance et voilà ce qu'elle explique. Au début de cette procédure, je ne ressentais même pas de colère. J'étais juste triste. Mais j'ai remarqué chez lui une absence totale de remords, un manque de conscience de la gravité des faits. Et ça, ça m'a mise en colère. Je suis préoccupée par le fait qu'il paraît ne pas saisir la gravité des crimes qu'il a commis et de l'impact que cela a eu sur moi. Aujourd'hui, j'espère que cette décision du tribunal aidera Harvey Weinstein à admettre la gravité de ce qu'il a fait et qu'il en sera vraiment désolé.
Son second procès s'ouvre à Los Angeles en octobre 2022 et il est condamné en février 2023 à 16 ans de prison, une peine qui s'ajoute à celle prononcée à New York. Mais le parcours judiciaire de Harvey Weinstein n'est pas terminé. En juillet 2020, la justice britannique a elle aussi ouvert une enquête pour agression sexuelle commise sur 2 femmes en 1996. À la suite de la révélation du scandale par les journaux new-yorkais, une vague de protestations contre les violences sexistes et sexuelles se déclenche partout dans le monde. Exprimée d'abord sur les réseaux sociaux, à travers plusieurs hashtags comme MeToo, bien sûr, Be Brave ou Balance ton porc en France, le mouvement se traduit aussi par des manifestations massives aux quatre coins de la planète. En permettant aux victimes de Harvey Weinstein de pouvoir enfin prendre la parole, les journalistes du New York Times et du New Yorker qui ont mené ces enquêtes ont ouvert une porte et encouragé la libération de la parole des femmes. Une porte qui ne s'est plus refermée depuis.
People want a shot. How much would it take for you to spread those legs apart? Oh, I'm the gatekeeper. Spread your legs, open up. You could be famous. Wait till 5 years down the road and you're failing. Keep fucking these regular dudes that are nameless. Don't you know that we are the gatekeeper? Spread your legs. legs open up, you could be famous. Girl on your knees, don't you know what your place is? Got gold on my dick, girl, don't you wanna taste? $20 million in a car. Girl, tie your hair up if you wanna be a star. People want a shot. How much would it take for you to spread your legs apart? I'm gatekeeper, spread your legs open up. You could be famous. Ground on your knees, don't you know what your place is? 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 We are gatekeepers, spread your legs open up. You could be famous. Ground on your knees. $20 million in a car. Girl, tie your hair up if you wanna be a star. $30 million, people want a shot. How much would it take for you to spread those legs apart?
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Weinstein et ses nombreuses conséquences, dont nous parlons avec notre invitée Marine Turki. Bonjour. Journaliste à Mediapart, vous avez écrit en 2021 le livre intitulé « Faute de preuves, enquête sur la justice face aux révélations de MeToo ». Alors, pour enchaîner sur la fin du récit, parlons d'abord, si vous voulez bien, du déclenchement de la vague de protestations MeToo à travers le monde. Parce que c'est bien d'une vague mondiale dont on parle. Et pourquoi, selon vous, cette affaire a-t-elle, finalement, plus qu'une autre, été un déclencheur, voire le déclencheur ?
Parce que jusqu'à présent, les violences sexuelles étaient traitées à la rubrique faits divers des journaux, et surtout d'ailleurs en France. Cette affaire, par l'aspect célébrité des protagonistes, vous l'avez redit, les actrices étaient mondialement connues, le producteur aussi très puissant, évidemment elle a été très médiatisée. Et pour mettre à l'agenda un sujet, il faut un électrochoc, il faut que les histoires s'incarnent. Et là, l'histoire s'incarnait des deux côtés. Mais surtout, MeToo est sorti de la presse écrite, finalement. De deux enquêtes, vous l'avez dit, très rigoureuses. Il y a des enregistrements, des accords financiers, donc la trace de l'argent. Il y a tout un tas de témoignages qui se recoupent. C'est un masterpiece de journalisme, d'abord. C'est deux enquêtes de deux journaux conjoints. Et c'est peut-être ça qui nous manque, d'ailleurs, en France. C'est que là, on a deux services d'investigation de deux journaux qui se répondent avec deux grandes enquêtes, qui surenchérissent ensuite avec de nouvelles enquêtes et des révélations. Donc, de la même manière que le sujet de l'évasion fiscale, il a été mis sur la table avec l'affaire Jérôme Cahuzac, je crois que l'affaire Weinstein a permis une prise de conscience globale, mondiale, et donc il y a un avant et un après cette affaire, et moi je pense qu'elle c'est l'une des plus influentes des dernières décennies en termes de conséquences mondiales.
C'est un vrai tournant. Mais ça veut dire que MeToo existait finalement avant d'exister ?
Alors MeToo, c'est un mot, c'est une campagne qui a été inventée par Tarana Burke, qui est une militante féministe et une travailleuse sociale afro-américaine. Donc dès 2007, elle a beaucoup travaillé dans la lutte contre les violences sexuelles et elle avait trouvé ce mot qui a été repris ensuite par l'actrice Alyssa Milano au moment de l'affaire Weinstein et de cet article. Et puis là, tout à coup, tout le monde se rendait compte qu'il pouvait dire moi aussi, qu'on pouvait le croire et que les articles se répondaient, les témoignages se répondaient. Et ça a entraîné cette onde de choc qui, quand même, impose une réalité sociale que la société ne voulait pas voir et entendre. Il y a une digue qui saute, il y a quelque chose de l'ordre d'un ordre établi qui se fissure, et je crois que c'est aussi ce travail de la presse écrite hyper méticuleux, vous l'avez rappelé, des mois d'enquête, 10 mois pour Ronan Farrow, 4 mois pour le New York Times, qui permet en fait tout ça. Et surtout, ces enquêtes, qu'est-ce qu'elles montrent ? Que contrairement à ce qu'on nous rabâche tout le temps, ces affaires sont autre chose qu'un parole contre parole. On peut trouver des preuves matérielles, on peut trouver des documents, on peut trouver des vidéos, on peut trouver des traces de l'argent en l'occurrence ici. Donc, on voit que finalement, sur ces affaires comme sur les autres, on travaille avec les mêmes méthodes de travail, on a des fils, on les recoupe, et puis on fait tout un travail de vérification.
Il faut d'ailleurs, mais on reviendra justement sur les côtés jugés par certains, je dis bien, contre-productifs. On y reviendra et on donnera quelques explications. Alors si la presse a hésité concernant Weinstein, c'est peut-être aussi que cette presse-là redoutait de perdre un annonceur important, on peut l'imaginer.
Oui, il y a une emprise, vous l'avez rappelé, très importante d'Harvey Weinstein sur les médias, sur le cinéma, sur la politique. Il était donateur du Parti démocrate, donc évidemment qu'il avait une influence. Évidemment que les annonceurs publicitaires, il y a peut-être des craintes de ce côté-là des journaux. Mais il y a aussi une hypothèse qu'on peut faire et qui est moins souvent abordée, c'est que finalement, dans un certain nombre de médias, il y avait aussi des journalistes qui avaient des comportements inappropriés avec les femmes et que ça peut expliquer la frilosité de certains médias à vouloir mettre à l'agenda ce sujet. Je vous donne un exemple. Vous avez mentionné NBC qui a refusé à Ronan Farrow cette enquête sur Weinstein. Ce qu'on voit, c'est qu'un mois après l'affaire Weinstein, NBC est elle-même concernée avec son présentateur vedette Matt Lauer par ses accusations. Hein, il est accusé de harcèlement sexuel.
Mais c'est pas une raison d'ailleurs pour pas en parler.
Tout à fait, mais on peut se poser la question. Est-ce que ce présentateur vedette qui ramenait des audiences énormes et donc des recettes, est-ce que finalement cette chaîne ne s'est pas dit que on va n'aller peut-être pas aborder ce sujet à travers Weinstein et mettre à l'agenda ce sujet? C'est une hypothèse qu'on peut faire.
Alors, est-ce que l'affaire Weinstein a eu des répercussions en France, aussi fortes qu'ailleurs? Je crois que la réponse n'est pas forcément oui.
Alors, il est
début, en tout cas.
Il est évident que MeToo a été plus taiseux en France que dans les pays anglo-saxons. En France, on a eu l'impression d'avoir un peu deux MeToo, une première porte qui tente de s'ouvrir après l'affaire Weinstein, et puis une deuxième porte qui s'ouvre un peu plus tard, à l'automne 2019, avec une avalanche d'affaires et de témoignages. L'actrice Adèle Haenel, mais pas seulement, Valentine Monnier sur Polanski, Sarah Abitbol, la patineuse sur son ex-entraîneur, et puis ensuite Vanessa Springora sur Gabriel Matzneff, Camille Kouchner sur Olivier Duhamel. Donc on a l'impression de quelque chose en deux temps. Il y a une date qui montre cet écart entre la France et les États-Unis, c'est le 9 janvier 2018. Aux États-Unis, vous avez le discours ultra puissant de Oprah Winfrey, qui est la première présentatrice noire américaine ultra connue, qui au Golden Globes fait un discours fracassant en disant nous faisons l'histoire, nous les femmes. Elle annonce une nouvelle aube, une nouvelle ère. Et puis de l'autre côté, nous en France, le même jour, on se réveille avec la tribune Catherine Deneuve. Oui. Et
on rappelle ce qu'elle avait dit. Mais moi, j'aime bien me faire siffler par les hommes, me faire draguer. C'est ça, elle avait dit un truc
cette tribune,
ça,
en fait, tout simplement, elle qualifiait MeToo de campagne de délation, et elle défendait une liberté d'importuner, alors qu'on parle quand même de crime et de délit. Ouais. Donc on voit ce décalage entre la France et les États-Unis à travers cette date et cet élément précis.
On se retrouve dans 3 minutes, on écoute Coline Rio qui chante « Elle laisse ».
Elle laisse au hasard les rêves, les chimères abîmées. Laisse le brouillard, la pluie et le goudron mouillé. La nuit est grande ce
elle
soir.
Elle part vers l'est, l'envol est grand, le cœur au vent.
Marine Turki, puisque vous êtes journaliste à Mediapart, à propos de cette affaire Weinstein, et en élargissant le propos, comment votre rédaction aborde une affaire comme celle-ci ou d'autres affaires? Est-ce que ça a redessiné la façon de travailler?
Alors déjà, il faut rappeler que ça met une semaine à arriver en France, cette affaire, en fait. Il faut plusieurs articles pour qu'enfin, en France, on se dise, ah, quand même, c'est important. À Mediapart, je me rappelle qu'on se met à travailler le 10 octobre, 5 jours après le premier papier du New York Times, et on se met un peu en mode commando. On estime que c'est un sujet important, et on le sait d'autant plus que chez nous, Lénaïque Bredoux, qui est gender editor, hein, c'est la première gender editor dans un média français, responsable des questions de genre à Mediapart, et donc aussi de ses enquêtes sur les violences sexuelles, bah, elle nous dit... c'est un sujet important, on s'y met tous en fait, comme quand il y a un grand événement. Donc on va travailler à la fois sur factuellement raconter cette affaire, mais raconter son impact, ce qu'elle raconte cette affaire globalement, et puis ces milliers de messages sur les réseaux sociaux qui arrivent aussi en France et qui nous interrogent tous. Et puis il y a un troisième élément, c'est les enquêtes aussi en France. On va lancer un certain nombre d'enquêtes à Mediapart. À l'époque, je me rappelle, on va travailler sur l'islamologue Tariq Ramadan, sur le ministre Gérald Darmanin, sur le producteur Luc Besson. Oui. Mais surtout, effectivement, vous avez raison, on a un précédent, nous à Mediapart, et vous aussi à France Inter. C'est une enquête qu'on a fait conjointement entre ces deux médias sur le député écologiste Denis Baupin, révélé par France Inter et ma collègue Lénaïque Bredoux à Mediapart. En fait, c'est un précédent important qui nous donne des méthodes de travail. Donc nous, on s'est déjà travaillé un petit peu là-dessus, et Lénaïque Bredoux nous a formé sur cette méthode d'enquête, de tirer les fils, de recouper, et de pouvoir finalement travailler avec les mêmes méthodes de travail qu'une enquête sur les scandales politico-financiers, par exemple.
Parce que vous estimez que ce thème-là, c'est quelque chose, peut-être une rupture de, on peut employer les grands mots, mais de civilisation, c'est vraiment important. Enfin, c'est très important. C'est un tournant. On change notre logiciel, notre regard. Vous estimez ça? Et c'est pour ça que pour vous, c'est un sujet majeur?
Je pense que le changement de logiciel, c'est d'abord de comprendre que les violences sexuelles, c'est pas quelque chose qui relève de la sphère privée. C'est d'intérêt public. Et sur ce sujet, comme sur les autres, l'écologie, la corruption et que sais-je, le journaliste fait son travail d'information. Et ça, aujourd'hui encore, c'est pas encore acquis. Il faut se battre contre cette idée reçue que quand même, ça regarde la sphère privée, ça ne regarde pas. C'est quelque chose qu'on entend dans nos enquêtes, ces coucheries, ces histoires de petites culottes. Alors qu'on parle de crimes et de délits, qu'on parle d'un gigantesque problème de santé publique. Donc je crois qu'après l'affaire Weinstein, tout un tas de médias se sont mis un peu à faire des task force ou des services, entre guillemets, violences sexuelles pour lancer un certain nombre d'enquêtes. Il y a eu un phénomène de rattrapage. Nous, à Mediapart, on a reçu un afflux de récits, de témoignages, de dossiers. On a créé une boîte qui s'appelle Violence sexuelle à Mediapart.fr. Je ne vous raconte pas les milliers de témoignages qui nous arrivent depuis qu'on a commencé à publier des récits, des enquêtes là-dessus. Donc, effectivement, il y a un changement de logiciel. On comprend qu'on parle, en fait, de questions d'abus de pouvoir, de domination. C'est ça qu'il y a derrière ces affaires. Que ce soit le ministre, le présentateur du 20h, le curé, l'instit, le père de famille... Le point commun, c'est la question de qui a le pouvoir, quel usage il en fait.
Domination
par le pouvoir. Oui. Et l'affaire Weinstein incarne tout ça, oui, vous l'avez redit.
Ces actrices qui ont peur que ça nuise à leur carrière. Bien sûr. Ils sont coincés, bien sûr.
Et c'est encore le cas aujourd'hui.
Mais oui. Est-ce qu'on peut dire qu'en France, la majorité des médias attendent que la justice travaille, alors qu'aux États-Unis, il y a une capacité, on va dire, plus importante de se saisir des enquêtes avant le travail de la justice? Est-ce que c'est ça qui change?
Et même en dehors du travail de la justice. Je pense qu'effectivement, aux États-Unis, il y a quand même une tradition un peu plus ancienne de travailler sur ces sujets, d'enquêter, qui est une ou pas une procédure judiciaire. Vous avez cité les enquêtes sur l'acteur Bill Cosby, le présentateur de Fox News, etc. Tout ça, ça existait avant Weinstein. En France, on voit qu'à Mediapart et avec quelques autres, on est un petit peu seul à s'emparer d'affaires là où il n'y a pas de plainte ou de procédure judiciaire. L'affaire autour du témoignage de l'actrice Adèle Haenel est un exemple parmi beaucoup d'autres. La majorité des médias français estiment qu'il faut s'appuyer sur une plainte pour pouvoir faire un récit. Je me souviens du chef du service police-justice du Parisien en 2021, il est questionné là-dessus, et puis il dit « Sans plainte, même si un témoignage nous semble crédible, il reste une dénonciation, une plainte, ça donne du poids, une forme d'authentification du témoignage. » Moi, je pense l'inverse. Je pense qu'en fait, je préfère une enquête avec 40 témoignages sur des mois, voire des années, plutôt qu'un morceau de plainte sur lequel on va se raccrocher et sur lequel on n'aura pas forcément enquêté. Chaque média fait comme il veut, mais effectivement, je crois qu'en France, c'est plutôt cette tradition-là qui domine.
Ça passe aussi par le champ lexical, la représentation mentale que on se fait de ce phénomène. Quand on parle, par exemple, de crime passionnel, quand c'est un féminicide, ça passe par là aussi.
Tout à fait, c'est une question de sémantique d'abord. Ouais. Pour bien comprendre les choses et bien les dénoncer, il faut pouvoir les nommer. Pendant des années, on nous a parlé de crime passionnel, on nous a parlé aussi de pédophilie ou de tourisme sexuel. C'est des mots qui sont inappropriés, en fait. Ouais. On parle de pédocriminalité, ce sont des crimes. On parle pas de tourisme sexuel, en fait. Voilà, on a pas des enfants, on abuse de chocolat, mais pas des enfants. Donc il y a un problème de sémantique. Et à partir du moment où, effectivement, par exemple, le mot féminicide a été posé, le mot pédocriminalité, eh bien, en fait, on commence à appréhender ces phénomènes, à comprendre aussi les systèmes de silence et d'omerta qui les entourent, de complicité. C'est ce que raconte d'ailleurs l'affaire Weinstein, notamment. Donc ça, c'est très important, ce travail qui a été fait de pédagogie, d'information et de sémantique qui a été fait par des tas de journalistes mondialement.
Alors, balance ton port, MeToo, on a dit, c'est une révolution en marche, mais beaucoup se disent, et il faut qu'on en parle, et vous, en tant que journaliste et même en tant que femme, tous ceux qui disent, mais pourquoi tant de radicalité? Comment expliquer que cette radicalité est incontournable et que le sort des femmes avant était bien plus radical, peut-être?
Alors,
parce que ça fait peur. Il ne faut pas se voiler la face. Parfois, ça fait peur. Donc, il faut savoir répondre à ça.
Là-dessus, je pense qu'il faut vraiment différencier ce qui va être sur les réseaux sociaux de ce qui va être notre travail à nous, de journalistes.
Bien sûr.
Que les personnes qui se disent victimes, elles s'expriment sur les réseaux sociaux, sur leur blog, dans des livres ou autres. Elles ont le droit, elles racontent les choses de leur point de vue. Notre travail à nous, de journalistes, c'est en fait de prendre tout ça, mais de le passer à la moulinette de l'enquête. C'est-à-dire, il y a un temps pour l'écoute de ces récits, puis il y a un temps pour la vérification. Et donc, on travaille, on vérifie tout ce qui peut l'être, les dates, les lieux, on retrouve les protagonistes. C'est pour ça qu'elles mettent des mois, ces enquêtes. Et parfois des années. Moi, je termine une enquête qui m'a pris 2 ans, là. Donc, vous voyez, c'est un travail très long et surtout, il y a le contradictoire. Nous, journalistes, on doit aller voir les personnes qui sont mises en cause. On doit prendre le temps d'amener tous les éléments et de dire, qu'est-ce que vous nous répondez face à cela? Expliquez-nous. Et parfois, tout ça, ça va déclencher des nouvelles recherches, des nouvelles investigations de notre part, et puis c'est pour ça que ça dure longtemps. Donc, on a un code de la route, nous, journalistes. On doit respecter ce temps de l'enquête et de la vérification. On peut pas se contenter d'un morceau de témoignage sur les réseaux sociaux. Donc chacun doit être dans son rôle. Et moi, je défends des enquêtes sérieuses et longues. À Mediapart, c'est ce qu'on fait. Et parfois, en fait, on publie pas. On passe notre temps aussi à ne pas publier.
Est-ce qu'on ne publie pas, par exemple, quand une personne fait l'objet d'une plainte et d'une seule plainte?
Par exemple, je prends le cas de Tariq Ramadan. Il y avait une première plainte. Nous, on a attendu en fait de mener notre enquête et puis qu'il y ait aussi la seconde plainte, qu'on puisse un peu voir tout ça pour pouvoir publier quelque chose de long, de documenté. Même chose sur Gérald Darmanin. Dès l'été 2017, on a vent d'une plainte pour viol qui le vise. Il venait d'ailleurs d'arriver au gouvernement. En fait, on a travaillé et notre papier a été publié en février 2018 avec d'autres éléments en plus. Moi, je défends le fait d'attendre parfois et de travailler plus en profondeur et de pouvoir amasser des choses. Et aussi, d'ailleurs, dans l'intérêt des personnes qui nous parlent, pour les protéger, envoyer au front toute seule une victime, alors qu'on pourrait trouver d'autres témoignages qui vont l'encadrer, qui vont renforcer dans ces affaires où, finalement, les preuves matérielles viennent parfois à manquer. C'est aussi la multiplication des témoignages qui se confortent entre eux et qui ne font sinon la preuve, en tout cas, un faisceau d'indices, un puzzle. Et l'enquête, Weinstein, c'est ça, c'est un puzzle qui se complète.
Dernière question, il nous reste une minute. Les policiers qui ne prennent pas au sérieux les plaintes des femmes victimes de violences sexuelles, est-ce qu'on note quelques progrès à ce niveau-là?
Oui, j'ai fait un livre là-dessus, je peux vous en parler.
Mais c'est pour ça que je vous pose la question.
Pour faire très court, disons que évidemment que MeToo a aidé à la compréhension de ces phénomènes, a aidé avec certains mots à poser des mots sur tout ça, à comprendre que le viol c'est pas forcément un parking, un couteau tard le soir. Dans 9 cas sur 10, la victime connaît son agresseur. Donc ça a aidé à battre en brèche tous ces préjugés. Je crois qu'aujourd'hui davantage de policiers sont formés, la justice essaie de davantage mieux appréhender ces phénomènes, mais en fait il y a toujours 73% de ces dossiers qui sont classés sans suite.
C'est énorme.
Bien sûr que c'est énorme. Donc il y a encore des progrès à faire et pour ça il faut des moyens, il faut de la formation et il faut détricoter aussi une certaine idéologie qui est encore dans les commissariats malheureusement.
Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment.
Merci
Marine Turki. Au revoir. Et affaires sensibles aujourd'hui, l'affaire Weinstein, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Despaz. Ce soir, je vous donne rendez-vous pour Affaires Sensibles version télé sur France 2. Ce sera 23h et nous aborderons les relations Poutine-Macron avec en sous-titre « Faut-il parler à Poutine ?».